Il est 8h.
C'est merveilleux, oui. Ça rappelle de la fin de la guerre en 1945.
Un avant-goût de liberté retrouvée et une fois n'est pas coutume, les résidents d'un EHPAD ont devancé le reste de la population. Reportage dans un instant. La joie des professionnels qui vont pouvoir rouvrir et le pass sanitaire qui se profile, on en parle ce matin. Ce matin également, le dernier hommage à la policière assassinée vendredi dernier, ce sera à Rambouillet, discours de Jean Castex. Et le monde qui change, c'est aussi le dernier trimaran d'Armel Lecléache, un petit bijou 2.0, vous l'entendrez à la fin de ce journal. L'invité politique d'Europe Matin, Cédric O, secrétaire d'État en charge du numérique. Après les annonces du président, le détail sur le pass sanitaire, comment ça marche, à quoi ça ressemble pour se rassembler au printemps. Est-ce qu'il fallait l'imposer au restaurant aussi? Tiens, Cédric O, à 8h15 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de Chloé Triomphe. Bonjour Chloé.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mieux qu'un calendrier de l'Avent pour certains, ce déconfinement programmé sonne comme un joli cadeau. À chaque date correspond son lot de liberté retrouvée. Emmanuel Macron a détaillé l'agenda des différentes réouvertures et des levées de restrictions. Direction ce qu'on pourrait appeler le banquet de la libération dans un EHPAD de la Nièvre, totalement vacciné, comme une préfiguration de la liberté pour tous. Caroline Baudry a assisté au menu gastronomique dont un chef a régalé les résidents pour l'occasion.
Bougère au vieux comté, crottin de chavignol aux morilles, vous rendez compte ?
Un menu d'exception pour un jour de fête. Claudette, 84 ans, a tombé le masque et sorti ses plus beaux habits. Sur les tablés, des nappes rouges, des bouquets printaniers et du champagne pour oublier cette année d'isolement à l'EHPAD.
Ça nous réveille un peu parce que ça avait été bouclé à cause des maladies. Coronavirus, c'est ça. Tous les gens sont heureux, tout le monde est content. Hein.
Bah, il faut garder un peu de place, il y a le dessert qui arrive.
Une pièce montée sans nougatine, plus facile à mâcher, confie le chef dans un sourire. Un dessert de gala pour les 74 résidents assis côte à côte et leurs soignants comme Catherine.
Avant, chacun était dans leur chambre et on les servait en chambre et l'appétit n'y était plus, quoi. Donc là, découvrir un repas comme ça, tous ensemble, je trouve que c'est super.
Et ce n'est pas Raymond, bientôt 100 ans, assis dans son fauteuil roulant, qui dira le contraire.
C'est merveilleux, oui. Ça rappelle de la fin de la guerre en 1945.
Une libération pour Raymond qui rêve déjà de son prochain repas, entouré de ses 13 petits-enfants. À Varennes-les-Narcy, dans la Nièvre, Caroline Baudry, Europe 1.
Alors dans le détail de ce fameux calendrier qui s'étale du 3 mai au 30 juin, on compte 4 étapes. Dès le 3 mai, la levée des restrictions de circulation. Le 19 mai, réouverture des terrasses, des lieux de culture et le report du couvre-feu à 21h. Le 9 juin, cafés et restaurants pourront accueillir des clients en salle. Couvre-feu repoussé à 23h. Et le 30 juin, ce sera la levée totale du couvre-feu.
Les musées, ça fait 200 jours qu'ils attendaient ça.
Oui, le 19 mai, ils pourront donc ouvrir avec une jauge de 800 personnes maximum. Les professionnels du secteur ne cachent pas leur joie. Angèle Châtelier.
Au Louvre, on se met en ordre de marche, nous dit-on, pour ouvrir le plus vite possible et que le public puisse notamment admirer des sculptures italiennes de la Renaissance et se l'est depuis octobre dernier, mois où devait débuter en grande pompe l'exposition Le corps et l'âme. Même chose au musée d'Orsay pour Les origines du monde, une exposition sur les rapports entre art, science et nature au 19e siècle, prolongée jusqu'en juillet. Et il n'y a pas qu'à Paris. Valérie Maillochon, directrice du musée de Sologne en Loire-et-Cher, est dans les starting blocks pour ouvrir.
Ça va permettre effectivement à tout le monde de repartir un petit peu sur de bonnes bases. De toute façon, on a déjà vécu un peu cette période-là l'année dernière pour tout ce qui est réouverture. Tout ce qui est parcours dans le musée, tout ce qui est hydroalcoolique, le fait qu'on ait des jauges pour que les gens puissent rentrer au musée. On est déjà armés en fait pour ce genre de demandes.
À Strasbourg, pour fêter la réouverture, tous les musées seront gratuits jusqu'au 30 juin.
Angèle Châtelier du service culture d'Europe 1.
La question a déjà été évoquée, mais c'est désormais officiel. Il faudra bien un pass sanitaire en France.
C'est l'une des annonces faites par Emmanuel Macron hier dans un entretien à la presse quotidienne régionale. Ce sésame pour accéder à certains lieux à forte affluence va donc se concrétiser. Et dès le mois de juin, Rémi Bostaro.
Oui, à partir du 9 juin, il s'imposera pour participer à tous les grands événements, ceux qui rassembleront jusqu'à 5000 personnes concrètement, pour aller voir un match de football dans un stade, assister à un concert, se balader dans les allées de salons ou de foires. Il faudra présenter ce pass sanitaire pour prouver qu'on est vacciné ou qu'on dispose d'un test PCR négatif. Cette preuve, on la trouvera soit dans l'application Tous Anti-Covid, soit en version papier. Dans ce cas-là, il faudra présenter un document au soignant qui a assuré le test ou la vaccination. vaccination. En revanche, Emmanuel Macron ne souhaite pas rendre ce pass obligatoire pour accéder à ce qu'il appelle les lieux de la vie de tous les jours, pas nécessaire donc pour aller boire un verre en terrasse, dîner au restaurant, aller chez des amis, au théâtre ou au cinéma. Ce pass, les touristes étrangers qui voudront séjourner en France devront le présenter dès leur arrivée dans le pays également à partir du 9 juin.
Merci Rémi Bodsaron pour Europe 1.
Les premières leçons de la crise sont déjà visibles et se lisent différemment selon les territoires.
Oui, le choc provoqué par l'épidémie de Covid n'a pas frappé de la même manière ni avec la même ampleur toutes les régions françaises. C'est ce que révèle une étude de l'INSEE publiée hier soir qui a décortiqué l'impact économique du premier confinement. Olivier Samin, certains territoires ont nettement plus souffert que d'autres.
Oui, les départements des Alpes et des Pyrénées. Le confinement d'il y a un an a stoppé net la saison des sports d'hiver. Le Haut-Rhin, le Doubs et la Haute-Garonne, là, c'est l'industrie automobile et l'industrie aéronautique qui ont mis un genou à terre. La région Île-de-France, notamment ses bassins d'emploi de Roissy et d'Orly, plombés par le coup d'arrêt du transport aérien. Et à l'intérieur de la région Île-de-France, Paris, qui a tiré un trait sur ses salons d'affaires, plongeant ses milliers d'hôtels et de restaurants dans l'inactivité forcée. Voilà les territoires qui ont le plus souffert avec le déclenchement de la crise. Et à l'opposé, il y a les départements de l'Ouest et du Sud-Ouest portés par l'activité agricole et l'industrie alimentaire. La crise a tout simplement mis en évidence la résistance plus ou moins forte des territoires selon leur spécialisation économique. Mais cette résistance plus ou moins forte résulte aussi des mouvements de population. Lors du premier confinement, Paris a perdu 20% de ses habitants, 450 000 personnes parties à la recherche de maisons avec jardin en Normandie, le long du littoral atlantique ou, moins loin, dans l'Yonne, département dont la population a bondi de 7% lors du premier confinement.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1.
Direction la Hongrie à présent, c'est le coup de projecteur de la rédaction sur un pays dont le dirigeant a choisi de lever les restrictions sans considération de la situation sanitaire.
Ce pays d'Europe centrale de presque 10 millions d'habitants a le taux de mortalité le plus élevé au monde rapporté à sa population, davantage que l'Inde et le Brésil. Nous retrouvons sur place à Budapest Jean-Sébastien Soldaini, l'envoyé spécial d'Europe 1. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour.
Mortalité très élevée donc, mais ça ne gêne pas le gouvernement qui a rouvert samedi dernier les terrasses des cafés et des restaurants.
Et le résultat, vous l'entendez. Chaque soir, la jeunesse de Budapest se retrouve près des bars, sans masque, sans distance. Et quand vous leur demandez s'ils connaissent le taux de mortalité lié au Covid en Hongrie, soit ils le découvrent, soit ils ironisent là-dessus sans aucun sentiment de culpabilité.
Nous sommes champions du monde. Alors oui, c'est vrai, je ne suis pas vacciné. Mais être dehors en terrasse, c'était nécessaire maintenant.
C'est étonnant d'avoir pris cette décision car le virus circule encore. Mais c'est le choix du gouvernement et on vit dans un monde nouveau. C'est génial.
Certains affirment qu'ils sont vaccinés, donc protégés. C'est le cas de 40% de la population environ. Mais attention, on parle là des vaccins russes et chinois, dont l'efficacité est remise en cause. Viktor Orban les a autorisés sans l'aval de l'Union européenne, avec ce risque qu'ils n'aident pas à enrayer l'épidémie.
Jean-Sébastien, qu'est-ce qui guide les choix du gouvernement de Viktor Orban ?
Eh bien, c'est la politique, pas les enjeux sanitaires. En interne, il satisfait sa jeunesse, mais ça va au-delà. Patrick Sikerlé est politologue. Il considère que Viktor Orban profite de la situation pour titiller une fois de plus l'Union européenne.
Choisir ces vaccins, ça rentre parfaitement dans son discours anti-Union européenne. Comme quoi Bruxelles ne sert à rien, c'est lent et bureaucratique. L'Union européenne ne servirait qu'à enlever des compétences aux États membres, alors qu'ils auraient besoin de plus d'autonomie vis-à-vis de Bruxelles.
Et Viktor Orban affine sa rhétorique. Lorsqu'il parle des vaccins chinois et russes, il parle des vaccins orientaux par opposition aux vaccins occidentaux, Pfizer et Moderna.
Mais on s'interroge, Jean-Sébastien, le Premier ministre hongrois, il n'est pas conseillé par les scientifiques ?
Il l'est, mais ce ne sont pas les personnes qui l'écoutent en priorité. J'ai rencontré un médecin généraliste plutôt remonté. À l'écouter, ce n'est pas la médecine et la science qui fondent les décisions du gouvernement Orban.
Hanem a külügyminiszter utasítására.
C'est le ministère des Affaires étrangères qui a demandé à ce que ces vaccins russes et chinois soient autorisés chez nous. Depuis le début de la pandémie, vous avez un militaire, un officier de l'armée qui a été placé à la tête de chaque hôpital.
Tout se marche au pas, ça permet à Viktor Orban d'affirmer que son pays vaccine vitesse grand V, c'est vrai, mais en mettant cela en avant dans les médias qu'il contrôle, ça lui permet aussi d'occulter cette très forte mortalité dans son pays.
Merci Jean-Sébastien Soldaini en direct ce matin en Hongrie pour Europe 1.
8h10, ce sera À 10h30 ce matin, un hommage national cette fois à l'agent administratif du commissariat de Rambouillet assassiné par un radicalisé la semaine dernière.
Jean Castex va assister à cette cérémonie officielle et présider, prononcer un discours. Le Premier ministre remettra la Légion d'honneur à titre posthume à Stéphanie Monfermé. Elle avait 49 ans et la ville de Rambouillet et ses habitants se préparent à lui rendre un dernier hommage. Reportage sur place, Johanna Chabas.
À 100 mètres du commissariat, l'estrade est installée devant le monument aux morts, sur une grande place pour accueillir les membres du gouvernement et les nombreux habitants qui veulent suivre cet hommage. Danielle est sage-femme. Elle a fermé son cabinet pour la matinée afin d'assister à la cérémonie.
Je me dois de rendre hommage. J'aurais du mal à travailler en sachant que ça fait une semaine qu'elle est décédée. C'est la pensée qui compte, ne pas oublier surtout. Cette femme qui a consacré sa vie à la France, qui laisse des enfants qui n'ont pas mérité cela.
La cérémonie doit durer une heure, avec un discours du Premier ministre, une minute de silence, une Marseillaise et la remise de la Légion d'honneur à titre posthume. Un hommage très solennel et qui devrait trancher avec celui de lundi soir à la mairie, jugé trop court par beaucoup d'habitants comme Sylvie.
Je ne sais même pas si ça a fait 8 minutes. Apparemment, c'est la famille qui le souhaitait et je comprends tout à fait, quoi. Mais bon, il y a pas mal de politiques qui s'étaient déplacées. J'ai cru quand même que M. Darmanin ferait un petit mot, sachant qu'elle était sous ses ordres, ça aurait été bien.
Aujourd'hui, elle espère que l'hommage sera à la hauteur pour que cette policière ne tombe jamais dans l'oubli. Rambouillet, Johanna Chabas, Europe 1.
Ce que vous entendez, c'est un mouvement de foule impressionnant lors d'un pèlerinage juif orthodoxe dans le nord d'Israël, au Mont Méron. Eh bien, terrible conséquence, 44 personnes, selon le dernier bilan revu à la hausse ce matin, sont décédées, piétinées ou asphyxiées. Les autorités avaient autorisé pour la première fois une jauge à 10 000 personnes, mais selon les différents observateurs, ce sont entre 30 000 et 100 000 personnes qui se sont rassemblées.
La Chine, à présent, où l'on ne plaisante plus avec le gaspillage alimentaire.
Oui, le pays a fait adopter une loi pour faire changer les habitudes. C'est vrai que la coutume, c'est de commander énormément de plats lors des réunions de famille ou de banquets au restaurant. Mais vous allez l'entendre, les sanctions prévues par cette loi sont plutôt dissuasives. Sébastien Le Belzic.
Ne pas finir son assiette, voilà qui peut vous coûter très cher en Chine. Une nouvelle loi anti-gaspillage a été votée à Pékin et elle fait la une de l'actualité ici. Les restaurants d'abord risquent 1300 euros d'amende, explique le China Daily, s'ils vous incitent à trop commander. Ensuite, les clients risquent également une addition salée, cette fois s'ils repartent sans avoir vidé leur assiette, explique l'agence chinoise, qui rappelle que cette règle a déjà été mise en place cet été et qu'elle a désormais force de loi. L'objectif, comme l'écrit le Global Times, c'est de mettre un terme au gaspillage très important en Chine, l'équivalent de 18 milliards de kilos chaque année, rien que dans les restaurants des grandes villes, mais aussi de garantir la sécurité alimentaire du pays. Un défi de taille, rappellent les journaux, sachant que la Chine compte près de 7% des terres arables de la planète et 20% de la population mondiale.
Sébastien Le Belzic, correspondant d'Europe 1 en Chine.
Et on vous l'a annoncé, on vous le présente, le nouveau trimaran d'Armel Lecléache, qui est un modèle de navigation 2.0.
Oui, le monde qui change, c'est aussi à bord des grands trimarans qui sont capables de voler au-dessus des flots à des vitesses impressionnantes. Le dernier vient de sortir des chantiers à Lorient et il pourrait presque s'apparenter à un data center à lui tout seul, tellement il est truffé d'outils électroniques, Corinne Boulou.
C'est vrai que ce géant des mers est équipé non seulement d'une centaine de capteurs, mais aussi, et c'est nouveau, de 120 mètres de fibre optique. De quoi surveiller les structures, mesurer les impacts et les déformations. Il faut dire que ce trimaran est prévu pour tenir des moyennes à plus de 40 nœuds, soit plus de 70 km à l'heure. Mais à très haute vitesse, percuter un objet flottant comme lors de la dernière roue du Rhum peut tout détruire. Alors en mer comme à terre, tout est désormais analysé en temps réel, à l'image de ce qui se fait en Formule 1. Armel Lecléache, à la barre du trimaran Banque Populaire 11, confirme que son équipe a dû s'étoffer.
On a une personne notamment 100% dédiée sur l'analyse de data, sur le suivi du bateau. Ça permet de mieux l'utiliser. Et puis, on aura la capacité de contacter le bateau ou l'équipage ou le marin à bord pour lui dire « Attention, tu vas franchir ou tu franchis une limite rouge qui peut engendrer une mise en danger du bateau et donc des marins à bord. » Par contre, il sera bien sûr interdit pour les gens à terre de pouvoir intervenir et de dire « Voilà, il faut que tu modifies ton réglage pour améliorer la performance du bateau. » Ça, ce ne sera pas possible.
Alors, en navigation, 300 données sont enregistrées toutes les 10 secondes. De quoi vraiment donner le tournis.
C'était la visite avec Corinne Boulou du service des sports impressionnant.
Un bateau avant, c'était une voile, un peu de bois. Non, c'est quand même compliqué, complexe tout ça. Merci beaucoup Corinne, merci beaucoup Chloé Triomphe. C'était le journal de 8h sur Europe 1. Il est 8h15.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans un tout petit instant, mon invité, Cédric O, secrétaire d'État en charge du numérique. On va parler du pass sanitaire. À quoi est-ce qu'il va ressembler? Comment est-ce qu'il va fonctionner? Des réponses dans les secondes qui arrivent. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h17 sur Europe 1, le secrétaire d'État en charge du numérique est mon invité. Bonjour Cédric O.
Bonjour.
Le pass sanitaire à la une ce matin, évidemment, ça y est, on commence à y voir plus clair et je parle sous votre contrôle. À partir du 9 juin, pour les événements jusqu'à 5000 personnes, pass sanitaire pour les concerts, les stades, les salons professionnels. Vous m'arrêtez si je me trompe, on va prendre les choses dans l'ordre.
Il y a même une date avant, qui est que fin mai, début juin, dès l'adoption du projet de loi état d'urgence sanitaire, on pourra utiliser la vaccination pour voyager, par exemple, pour prendre l'avion, pour aller en Outre-mer, pour aller en Corse, le bateau pour aller en Corse. Aujourd'hui, c'est réservé aux tests PCR négatifs, ou d'ailleurs positifs entre 2 semaines et 2 mois, puisqu'en fait, vous avez été immunisé. Mais à partir de fin mai, début juin, toutes les personnes qui ont été vaccinées pourront aussi se passer de tests PCR
pour voyager, et pour le faire valoir. C'est important de le souligner. Quelles informations contiendra ce pass sanitaire ? Certificat de vaccination, ça va de soi ?
Alors, il y a trois choses qui vous permettront effectivement d'accéder aux grands événements ou de voyager. Soit vous avez un test PCR de moins de 48 heures, premier élément, soit négatif évidemment, soit vous avez un test PCR positif, et ça on l'oublie trop souvent, entre 2 semaines et 2 mois, donc on estime qu'en fait vous avez été malade et que maintenant vous êtes immunisé pendant une durée de 2 mois, soit effectivement vous avez été vacciné de manière complète, c'est-à-dire que vous avez fait
les deux doses
s'agissant de Pfizer oui. ou de AstraZeneca.
À quoi est-ce qu'il va ressembler ? Alors évidemment, on va le trouver sur l'application Tous Anti-Covid, on va rassembler ces informations-là sur l'application, ouais. Mais pas seulement.
Alors, c'est déjà le cas. Il existe déjà pour les tests RT-PCR. Aujourd'hui, quand vous allez vous faire tester, d'ailleurs en PCR ou en antigénique, vous recevez un SMS et un email, vous avez accès à un portail patient, et là, vous avez le choix soit d'imprimer et de télécharger un PDF sur lequel il y a un QR code, soit d'importer ce QR code dans votre application Tous Anti-Covid. C'est plus simple. D'ailleurs, c'est plus simple et ça évite de manipuler des feuilles. C'est aussi un intérêt sanitaire. On l'a vu d'ailleurs dans les expérimentations, c'est que en fait, les personnels d'Air France vérifient votre test sans contact. Ça, c'est le premier élément. Et à partir de lundi, vous pourrez le faire pour la vaccination. Mais attention, ce ne sera évidemment effectif qu'à partir de fin mai, début juin, puisque d'ici là, c'est uniquement le test PCR pour voyager.
Oui, test PCR, le certificat de vaccination, le test PCR positif de 2 semaines à 2 mois. Donc, on le trouve soit sur l'application, soit
exactement.
On a l'exemplaire de certificat avec le QR code à présenter. Jusqu'à 5000 personnes. À partir de combien ?
Alors ça, c'est un débat. Nous sommes en train d'avoir la discussion avec le conseil scientifique. Est-ce que c'est 500 personnes ? Est-ce que c'est 1000 personnes ? Ça fera aussi partie des éléments que nous débattrons
ça change tout,
à l'Assemblée nationale.
Hein, parce qu'on parle beaucoup des restaurants, par exemple, mais les théâtres, les cinémas, la jauge à 500, on est loin quand même.
Ouais. Mais il y a quelque chose qu'on a complètement écarté. Là, on veut être absolument clair parce qu'on pense que ce n'est pas proportionné. C'est le quotidien, c'est-à-dire aller dans un restaurant, aller dans un cinéma, aller dans un théâtre, aller faire son shopping. On n'utilisera pas le pass sanitaire pour cela.
Certains pays ont fait le choix.
Danemark, Israël ont fait ce choix-là. Mais on estime que ça ne correspond pas à la culture française, que ça ne correspond pas à la temporalité de l'épidémie et que ce n'est pas opérant. Et donc, on a décidé de le cantonner à des grands événements. Est-ce que les grands événements, ça commence à quelques centaines ou à 1000 personnes ? Ça, on attend d'abord une réponse du conseil scientifique. Et puis, pour pouvoir mettre en place le pass sanitaire, on va passer par le Parlement. Et c'est important, je pense, pour la démocratie qu'il puisse y avoir un débat sur le sujet. Cela fera partie aussi des discussions que nous aurons avec les parlementaires.
Cette question du pass sanitaire, elle sera débattue et votée à l'Assemblée.
Exactement.
Absolument.
Il est impératif que l'Assemblée le vote pour qu'on puisse le mettre en place.
Bah parce qu'il y a beaucoup de questions que ça pose, des questions politiques, éthiques. On va y venir, mais d'abord, puisque vous disiez non sur les restaurants, ce choix qui a été fait, les lieux de vie du quotidien, il y a aussi, ils sont très contents de pouvoir ouvrir, mais il y a aussi cette peur du stop and go. On ne risque pas de devoir refermer si on ne met pas le pass sanitaire partout, pour faire simple.
Non mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important et ce qui a été fait hier par le président de la République, c'est de donner de la visibilité avec un déconfinement, en quelque sorte, qui soit progressif. Tout le monde comprend qu'on ne puisse pas le faire du jour au lendemain. On estime que ce que nous mettons en place aujourd'hui permettra de retourner à la vie normale, ce que tout le monde a envie de faire, de manière progressive et sécurisée. Est-ce qu'on n'aura jamais de stop and go parce que les variants, etc., etc., si je vous disais non, je vous mentirais. Mais on estime qu'aujourd'hui, dans les conditions sanitaires, avec les protocoles qu'on met en place, ce sera fait graduellement et de manière sécurisée.
Et je vais prendre un exemple, qui est d'ailleurs le seul exemple, la seule profession qui, depuis mars 2020, n'a pas pu retravailler à aucun moment, vous savez de qui je parle, les discothèques. On n'aurait pas pu rouvrir les boîtes de nuit avec un pass sanitaire ?
À ce stade, on l'a écarté. Il y aura une discussion parlementaire. Je pense que, je comprends évidemment la difficulté des discothèques, mais je pense que l'acceptabilité de ce pass est aussi liée à, au fait que ce ne soit pas pour la vie de tous les jours, que ce ne soit pas dans des cercles limités, et donc je pense qu'il est raisonnable de le cantonner à des grands événements.
Et son champ concerts, d'application peut évoluer foot, par la suite, selon l'épidémie, selon l'évolution de l'épidémie, de la vaccination, son champ d'application peut évoluer.
À ce stade, on ne l'envisage
pas.
À
ce stade, non, d'accord. Ce passe sera discuté, on l'a dit, débattu au Parlement. Il soulève évidemment des critiques, Cédric O. Est-ce qu'on ne va pas créer tout simplement deux catégories de Français, ceux qui ont eu accès à la vaccination et les autres? Je sais qu'il y a les tests PCR, mais d'un seul coup, il y a un horizon de vacances, de voyages, de sorties qui s'ouvre pour certains. D'autres devront attendre.
Alors, je pense qu'il faut être absolument clair. Le pass, c'est un sésame vers la liberté. C'est-à-dire que là, on a prévu pour le 9 juin de rouvrir les événements, les grands événements jusqu'à 5000 personnes. Sans le pass, nous ne pourrions pas le faire. Donc, on anticipe un certain nombre de réouvertures. Et je pense que tout le monde a envie de retourner dans des concerts. Tout le monde a envie de reprendre une vie normale. Est-ce que c'est discriminant? Mais absolument pas. Pour une bonne raison, c'est que ce n'est pas un pass vaccinal. C'est un pass sanitaire. Aujourd'hui, la France a fait un choix qui n'est pas le choix de tous les pays européens. J'étais avec mon homologue italien. En Italie, les tests sont payants. En France, ils sont gratuits. Et le pass, c'est soit le vaccin, soit le test. Donc, je ne comprends pas ceux qui disent que c'est discriminant. Tout le monde peut avoir accès à un test facilement. C'est gratuit. Il suffit d'y aller 48 heures avant l'événement. Et donc, je pense que c'est très proportionné et que si ça peut nous permettre de rouvrir plus vite, c'est une excellente
idée. Et une autre question, la Commission nationale informatique et liberté, je le précise, la CNIL qui valide le principe hein, du pass sanitaire, mais qui met en garde ces données nous concernant, positifs, négatifs, vaccinés ou non, elles sont stockées où?
Alors, c'est très important de le dire, le pass sanitaire ne donne à l'État aucune donnée supplémentaire sur vous. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on vous permet d'importer le résultat et de le mettre dans votre téléphone. Et à ce moment-là, il n'est stocké que dans votre téléphone. Donc, il n'y a pas de changement s'agissant des données personnelles des Français.
Fichier,
non, il n'y a pas un nouveau fichier s'agissant des données personnelles des Français. Et d'ailleurs, la CNIL,
il y a quoi comme données qui apparaît quand je suis contrôlé avec ce pass sanitaire? Il y a quoi comme données me concernant qui apparaît dans le contrôle?
Alors, demain, quand vous irez dans un festival, c'est très simple. Dans les semaines qui viennent, on va mettre en place une application de lecture de ce pass pour les festivaliers, parce qu'ils ont besoin de vérifier. Et la seule chose qu'ils verront, c'est vert ou rouge. C'est-à-dire qu'ils ne sauront même pas si c'est un vaccin, si vous avez été malade, d'accord, et que vous êtes immunisé, ou si vous avez un test PCR de moins de 48 heures. C'est extrêmement important parce que ça protège la vie privée des Français. Vous pouvez entrer sans que la personne en face de vous sache de quoi il retourne.
Alors, j'ai une question très précise à vous poser. On a évoqué la question des voyages parce que c'est évidemment à ça qu'on pense en premier. Et d'ailleurs, au début, disons-le, la France n'était pas favorable à l'idée d'un passeport sanitaire. On parlait de passeport vaccinal même à une époque.
Elle n'a jamais été favorable à un passeport vaccinal.
On est sur
dès
un pass sanitaire.
Dès lors qu'on incluait les tests PCR, elle
est favorable. J'ai bien compris la nuance, mais il y avait cette impulsion européenne, au moins pour permettre la libre circulation entre les États de l'espace Schengen, pour voyager cet été. On peut peut-être rêver de Grèce, de Portugal, qui sait. Mais l'Européen qui a un pass sanitaire, le Hongrois qui a été vacciné avec le vaccin chinois ou russe, il a un pass sanitaire?
Alors, il faut être très clair. D'abord, c'est effectivement un projet européen, c'est-à-dire que c'est coordonné, notamment par les équipes de Thierry Breton, pour faire en sorte qu'on puisse voyager en Europe cet été. Mais bien sûr que les seuls vaccins qui pourront être reconnus, ce sont les vaccins qui sont reconnus par l'autorité européenne des médicaments, donc tous ceux qu'on connaît, mais le vaccin aujourd'hui Spoutnik ou le vaccin chinois ne sont pas reconnus. Donc évidemment qu'on ne pourra pas entrer sur le territoire français.
Mais si M. Orban décide d'accorder des passes sanitaires à sa population vaccinée...
La France garde la main sur, d'accord, quels sont les vaccins qui sont acceptés dans le pass sanitaire.
Alors je prenais l'exemple hongrois, mais les Américains n'ont pas forcément tous exactement les mêmes vaccins, les mêmes règles. Est-ce que les Américains pourront venir en Europe?
Alors les Américains pourront venir en Europe dans un certain nombre de conditions qui sont en train d'être discutées à la fois entre l'Union Européenne, la France et les États-Unis pour les gens qui viennent en France. Mais l'idée c'est vraiment que les gens qui viennent en France, les touristes qui viennent en France bénéficient de la même protection, enfin en tout cas, offre à la France les mêmes garanties de protection que ceux qui sont demandés à ses citoyens, évidemment.
Donc on en parlait dans le journal de 8h, les Hongrois avec le vaccin chinois ou russe ne pourront pas bénéficier de cette ouverture à une forme de liberté par le pass sanitaire. Alors dans les annonces du président de la République, il n'y a pas que le pass sanitaire, le télétravail assoupli à partir du 9 juin. Cette question qui se pose évidemment, je voyais Simon Cauchemez du conseil scientifique modélisateur qui dit on ne peut pas lever toutes les mesures d'un coup, je vois Catherine Hill qui dit, l'épidémiologiste, le déconfinement n'est absolument pas raisonnable, la fédération hospitalière qui s'inquiète, l'épidémie est loin d'être sous contrôle. On prend un risque là? On prend un pari d'assouplir aussi vite?
Je ne pense pas qu'on puisse parler de pari. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très graduel qui est en train d'être fait. Est-ce que on ne reviendra jamais à un confinement si les variants se développent de manière extrêmement rapide, je ne peux pas vous dire non. Mais je pense que les choses sont faites de manière très maîtrisée et surtout, il y a une nouvelle donnée, c'est qu'il y a la vaccination. Aujourd'hui, il y a près de 15 millions de Français qui ont reçu une première dose. On devrait arriver à vacciner l'ensemble de la population, à proposer l'ensemble de la vaccination à l'ensemble de la population adulte d'ici cet été. Et donc, c'est une donnée qui change fondamentalement les choses. Mais on ne rouvre pas tout d'un coup. Certains pays l'ont fait. L'Inde, par exemple, ça ne se passe pas très bien. Et donc, je pense que les choses sont faites de manière sécurisée, mais que c'est une bonne nouvelle d'aller vers la liberté pour une raison simple, c'est qu'on voit très bien la protection qu'offre le confinement. Ce qu'on ne voit pas, c'est les milliers de morts invisibles parce que les soins sont décalés, etc. etc. Donc, il y a un équilibre qui est trouvé à travers la solution du gouvernement, qui pourra être adaptée, notamment de manière locale, c'est ce que le président a dit, mais je pense que c'est la bonne solution.
Cédric O, merci beaucoup. Merci. Secrétaire d'État en charge du numérique, on va voir l'application du pass sanitaire. Le 19 mai au matin, vous faites quoi, vous ? C'est resto, c'est café, c'est cinéma ?
Je crois que tout le monde a envie de retourner sur les terrasses, donc un petit café
mercredi,
en terrasse.
Il y a Conseil des ministres.
Alors, ce ne sera pas le café, mais peut-être le restaurant. Merci. Si le président nous laisse trop tôt, suffisamment tôt.
Merci beaucoup, Cédric O, secrétaire d'État en charge du numérique, notre invité ce matin, merci. Pour que vous puissiez tout comprendre à ce pass sanitaire qui fait débat, évidemment, mais qui peut-être vous permettra de partir en vacances. Il est 8h28.
Europe 1. Mathieu Béliard.
Un nouveau point sur l'info et la météo de Laurent Cabrol, c'est à suivre sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, un nouveau journal avec Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Dans ce journal, trois premiers cas de variants indiens détectés en Inde. Des restaurateurs qui se préparent à rouvrir dans la perspective du 19 mai, avec des discussions également prévues pour l'État, pour que l'État ne réduise pas tout de suite ses aides au secteur. Et puis des discussions aussi à venir à Bruxelles. L'Europe pourrait bien autoriser l'introduction de la dernière génération d'OGM sur le continent.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le ministère de la Santé l'a annoncé hier soir. La France vient de détecter trois premiers cas du variant indien au coronavirus.
Oui, sur des personnes de retour d'Inde, Nicolas Fellmann.
Oui, le premier cas est une femme résidant dans le Lot-et-Garonne, de retour d'Inde avant le renforcement des mesures de sécurité aux frontières. D'abord testée positive le 9 avril, elle est mise à l'isolement et ce n'est qu'après que le CHU de Toulouse identifie ce fameux variant indien. Les deux autres cas, on les retrouve dans les Bouches-du-Rhône, deux personnes sans lien l'une avec l'autre, toutes les deux rentrées d'Inde. Elles sont testées positives au début de leur quarantaine. Alors faut-il s'inquiéter de ces premiers cas en France ? Yannick Simonin, virologue à l'Inserm.
Le variant indien, il faut pas du tout être paniqué par rapport à sa présence. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est est-ce qu'il va se propager ? Est-ce qu'on va retrouver des clusters ? Ça, c'est une question pour laquelle on n'a pas la réponse actuellement. Mais il y a quand même des études qui suggéreraient qu'il serait moins contagieux que le variant britannique. Est-ce qu'il va réussir à se faire sa place au milieu de tous ces variants ? Pour l'instant, on n'a pas d'indication qui suggérait que ça puisse être le cas.
Et ces derniers jours, d'autres cas suspects chez des personnes revenant d'Inde ont été signalés en France. Les laboratoires d'analyse poursuivent le séquençage des prélèvements pour déterminer la présence ou non de ce variant.
Précision signée Nicolas Fellmann, l'Inde, où l'aide humanitaire continue d'arriver. À l'image de cet avion américain, aujourd'hui transportant plus de 400 bouteilles d'oxygène, des équipements hospitaliers et des tests rapides de dépistage. Europe 1, vous le révélez hier après-midi, le calendrier du déconfinement dévoilé par Emmanuel Macron, interview à la presse régionale dans laquelle le chef de l'État entend renouer avec l'art de vivre à la française dès le 19 mai. Autrement dit, dans moins de 3 semaines, il nous sera possible de retourner au cinéma, au théâtre, au musée, de refaire du shopping et de s'installer en terrasse pour boire un verre ou pour manger.
6 personnes maximum par table, une condition qui n'entame en rien la satisfaction des restaurateurs comme ceux qu'a rencontré Jean-Luc Boujon à Lyon pour Europe 1.
En apprenant la réouverture des terrasses le 19 mai, les restaurateurs lyonnais ont poussé un grand ouf de soulagement. Enfin, on va pouvoir refaire ce qu'on aime, se réjouit Thibaut Salva, patron de 3 restaurants à Lyon.
On est tous satisfaits de pouvoir reprendre le travail, de faire revenir nos employés, rouvrir nos portes, rallumer les lumières, mettre la musique et d'accueillir nos clients.
Mais la date la plus importante, c'est bien le 9 juin, lorsque les bars et les restaurants rouvriront entièrement, y compris en intérieur, et surtout avec un couvre-feu repoussé à 23h, ce qui plaît beaucoup à Geoffrey Clavel, patron du bar Le Commerce dans le 7e arrondissement.
Ça c'est super cool, le 9 juin on aura presque un bout de vie quasiment normal, c'est formidable, on pourra presque dîner complètement du coup, prendre le dessert et le café, donc vivement le 9 juin.
Dans la foulée, la ville de Lyon a aussi voulu marquer son soutien aux bars et aux restaurants. Valentin Lugenstras est adjoint aux espaces publics.
On va étendre les terrasses sur les trottoirs tout en respectant vraiment les cheminements piétons et puis sur les terrasses sur stationnement, ces extensions seront gratuites pour respecter d'une part la distanciation physique mais aussi aussi en guise de soutien économique pour les restaurateurs.
Et toujours dans cette logique d'aide, la ville a aussi annoncé son intention de pérenniser ce système de terrasses toute l'année. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Oui, au-delà de ces aides locales, à Marseille aussi, l'extension des terrasses éphémères va être autorisée. Se pose la question de l'accompagnement de l'État avec la réouverture des établissements. Quel avenir pour les aides dont ils bénéficient, Carole Ferry ?
Eh bien écoutez, c'est justement tout l'enjeu des discussions qui ont lieu en ce moment à Bercy. Une chose est sûre, l'arrêt des aides sera progressif. Les restaurants qui n'ont pas de terrasse, par exemple, pourront continuer à percevoir les mêmes aides qu'aujourd'hui après le 19 mai. Ce qui est plus compliqué, c'est la suite. Il faut trouver le bon curseur pour indemniser le plus justement possible les bars et restaurants qui vont pouvoir rouvrir, mais avec des jauges réduites, donc avec moins de chiffre d'affaires. Il faut protéger ceux qui sont réellement impactés par les restrictions sanitaires tout en évitant les effets d'aubaine. Ça n'est pas si simple à trancher. Une nouvelle réunion est prévue dès le début de semaine prochaine à Bercy autour de ces questions. Et puis parallèlement, le gouvernement réfléchit à un dispositif pour venir en aide aux petites entreprises qui se retrouveraient face à un mur de dette. Un dispositif dont devrait bénéficier pleinement ce secteur de l'hôtellerie-restauration.
Et après l'hôtellerie-restauration, réouverture des salles de sport le 9 juin, autorisation d'organiser des événements pouvant aller jusqu'à 5000 personnes, mais avec un pass sanitaire. Le couvre-feu sera étendu à 23h avant d'être supprimé le 30 juin. Et à l'image de la France, assouplissement en vue à travers le monde. En Irlande, à partir du 10 mai, au Portugal, dès demain. Et de son côté, la ville de New York prévoit de rouvrir totalement le 1er juillet. Et alors que la barre des 150 millions de cas a été franchie dans le monde, l'Autriche, elle, travaille à une meilleure détection des contaminations chez les plus petits avec des tests sous forme de sucettes actuellement expérimentées dans les crèches. 90 secondes dans la bouche, 15 minutes pour obtenir le résultat. Moins invasif, évidemment, que des tests nasaux.
C'est que pour les enfants ?
Oui.
C'est que pour les petits dans les crèches. Ouais, j'aurais préféré la sucette, oui, sincèrement. 8h35 sur Europe 1. Un hommage national rendu aujourd'hui à Rambouillet, une semaine après l'attaque terroriste au commissariat qui a coûté la vie à une fonctionnaire de police.
Le Premier ministre participera tout à l'heure à partir de 10h30 à la cérémonie, discours et remise de la Légion d'honneur à titre posthume.
C'est un sujet sensible en Europe et il revient aujourd'hui sur le devant de la scène. Les OGM, nouvelle version qui pourrait bientôt être autorisée en Europe.
Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. La Commission européenne vient en effet d'ouvrir la voie à l'introduction de plantes issues de nouvelles techniques génétiques.
Oui, à la demande des 27 capitales, la Commission européenne a étudié ces nouveaux OGM. Sa conclusion, c'est une innovation importante, un virage que l'Europe ne doit pas rater. Aujourd'hui, les organismes génétiquement modifiés sont ultra encadrés. Étiquetage, traçage, surveillance. Mais voilà, ce cadre législatif a 20 ans, depuis les techniques ont évolué. Avant, on insérait un gène étranger dans une plante. Désormais, on modifie les gènes de la plante avec les fameux ciseaux génétiques qui ont valu un prix Nobel à une chercheuse française. Les partisans de ces techniques expliquent qu'il y a moins de risques car ces mutations ressemblent à ce qui se passe dans la nature, sauf que ça va beaucoup plus vite. Les nouvelles plantes résistent mieux au changement climatique, ne déclenchent plus d'allergies ou nécessitent moins de pesticides. Bruxelles envisage donc une nouvelle législation, plus souple. Les défenseurs de l'environnement s'inquiètent déjà, ils dénoncent une remise en cause du principe de précaution. Les ministres européens de l'agriculture discuteront de ce sujet le mois prochain.
Explication d'Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1. Bousculade géante en Israël lors d'un rassemblement religieux, au moins 44 morts. Et puis la Ligue 1 débute la 35e journée ce soir à partir de 21h, Marseille face à Strasbourg.
Merci Marion Calais, c'était le journal de 8h30 sur Europe 1. Il est 8h37 et Laurent Cabrol est avec nous. La météo, bah, c'est plus que c'était.
Non, c'est plus que c'était, mais pour aujourd'hui je divise la France en deux. Vous allez choper au passage... J'en ai mis les régions qui vous concernent. Sur le Midi-Pyrénées, le Limousin, le Poitou-Charentes, le Dijonais, les Alpes du Sud, la région Rhône-Alpes, le Berry, le Nivernais et le bassin méditerranéen, ce sont des pluies parfois orageuses. Attention, en Méditerranée, elles seront parfois violentes, moins que demain, pardon, mais elles seront très violentes. Sur le littoral de la Manche, la région parisienne, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, le Morvan, l'Aquitaine et la vallée de la Loire, là, vous aurez des éclaircies. Avec quelques averses, faut pas les exclure, mais enfin, elles seront pas majoritaires. Et puis, la température en baisse, entre 12 et 16 degrés sur les deux tiers de la France, hein, de 16 à Paris seulement et 12 à Saint-Etienne. En passant par 14 à Dijon et 15 à Toulouse. Demain samedi, des pluies en général sous forme d'averses. Et je le dis, je le répète, je ne dirai jamais assez, elles sont très fortes à la fois sur la région Rhône-Alpes et sur le bassin méditerranéen. Des pluies violentes avec des orages. Et puis dimanche, ça va mieux. Régime d'averses à peu près partout, mais très espacées ces averses. Mistral et Tramontane vont se lever et le temps va changer la semaine prochaine. Ce sera au nord de la pluie, au sud du soleil.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h38 sur Europe. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le docteur Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1 tous les matins avec nous, notre santé. Et vous allez nous parler ce matin, Jimmy, de la charge mentale et de comment mieux la gérer avec quelques astuces simples. Mais avant tout, on va peut-être rappeler à nos auditeurs ce que c'est précisément la charge mentale.
Alors c'est vrai que tout le monde a entendu parler de la charge mentale et l'attribue aux femmes car ce sont elles qui en souffrent le plus, alors que la définition concerne autant les hommes que les femmes. La charge mentale, elle a été définie dans les années 80 comme le fait que deux univers, l'univers professionnel et domestique, coexistent, empiètent l'un sur l'autre, compliquant donc la gestion du temps. En clair, cela veut dire que vous pensez par exemple à ce que vous devez faire à la maison, comme faire les courses avant la fermeture des magasins à 19h, alors que vous êtes physiquement sur votre lieu de travail.
D'accord. Et c'est donc le fait d'avoir le cerveau finalement en permanence en tension, toujours avoir à penser à quelque chose à anticiper.
Exactement. Les personnes qui souffrent de charge mentale élevée sont en permanence dans l'anticipation. Elles sont tout le temps en train de calculer, même pour des choses qui peuvent paraître sans une grande importance, comme le rangement des affaires dans un placard. Pour faire plus simple, ce sont des personnes trop perfectionnistes, même si à la base, c'est plutôt une qualité de vouloir bien faire les choses. Sauf que les perfectionnistes, que ce soit des hommes ou des femmes, ne sont jamais contents d'eux-mêmes. Ils sont peu gratifiés de leur travail et deviennent assez vite fatigués de la répétition de ces efforts.
Et justement, un des signes d'une charge mentale élevée, eh bien, c'est peut-être une fatigue importante.
Exactement, car le cerveau est en permanence sous tension, toujours en ébullition, et cela va être responsable d'une grande fatigue, mais avec d'autres symptômes comme des troubles du sommeil, une irritabilité ou même des symptômes physiques comme de la tension musculaire ou encore des maux de tête. Elles en ont en quelque sorte littéralement plein le dos.
Comment faire alors pour diminuer cette charge mentale qui a dû augmenter avec les différents confinements ?
Ah oui, exactement. Alors, on connaît tous la to-do list. Vous savez, le fait d'écrire ce que vous devez faire sur une journée. Eh bien, je vous propose de faire l'inverse. Notez tout ce que vous avez déjà fait dans une journée. Et vous allez vous rendre compte de tout le travail accompli. Et puis, vous pouvez aussi reprendre cette to-do list et faire le test suivant. Demandez-vous quelle importance aura les tâches que vous devez faire dans la journée dans 5 ans. Cela va vous aider en quelque sorte à hiérarchiser ce que vous avez fait.
Vider le lave-linge dans 5 ans, ça aura une importance relative.
Exactement, et ça permet de baisser la charge mentale. Vous dites que finalement, les choses peuvent attendre. Car les personnes,
faut pas me dire ça à moi. Je suis le roi des procrastinateurs. Moi, je vous laisse continuer, Jimmy.
Eh ben, les personnes qui souffrent d'une charge mentale élevée vont avoir tendance aussi à toujours se comparer aux autres. Et rien de pire que d'aller sur les réseaux sociaux, voir ces influenceurs parfaits, à la vie parfaite, à la chambre bien rangée, aux enfants qui sont bien habillés, bien coiffés dès 9h du matin, un dimanche, pendant que c'est le chantier chez vous à la maison de votre côté. Donc coupez au maximum ces réseaux sociaux qui sont toxiques et qui, pour la plupart du temps, soyons honnêtes, travestissent la réalité.
Nous, on le sait que c'est pas vrai, que c'est pas si bien rangé tout le temps, que vos enfants ne sont pas coiffés comme ça le dimanche matin. On le sait. Jimmy, cette question de la charge mentale qui fait débat depuis des années, qui fait des discussions, vous allez y revenir longuement avec Mélanie Gomez dans l'émission Santé d'Europe 1 à 15h.
Exactement, on reçoit le docteur Aurélia Schneider. Elle viendra nous parler de son livre La charge mentale des femmes et celle des hommes aux éditions Larousse.
Et elle est passionnante, absolument passionnante. Merci Jimmy Mohamed, notre santé, 8h42. Fanny Agostini avec nous à présent, notre planète. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ce matin, Fanny, vous évoquiez, il faut bien écouter là, la création d'une filière de recyclage des cheveux coupés pour filtrer les hydrocarbures dans l'eau.
Oui, c'est ça. C'est l'initiative d'un coiffeur du Var, en fait, et de son association qui s'appelle Coiffeur Juste, lancée en 2015, pour récupérer effectivement les cheveux auprès des salons de la région afin qu'ils soient transformés en une sorte de tapis chevelu. Des tapis utilisés, attention, pour filtrer les hydrocarbures dans l'eau. C'est pas des bêtises. En cours d'expérimentation dans le port de plaisance de Cavalaire-sur-Mer, certains sont même placés au fond des cales des bateaux et d'autres sont disposés autour de la station-service du port. C'est une solution facile et pratique. Je vous explique pourquoi. Une fois dans l'eau, les cheveux offrent une adhérence très forte pour toutes les huiles et les plaques de mazout. Une fois saturé, chaque kilo de cheveux est capable d'absorber jusqu'à 8 litres d'hydrocarbures.
Wow. Et vous dites que on a là une solution d'économie circulaire qui permettrait même de lutter contre certaines marées noires.
Eh bien oui, de les éponger plus facilement en tout cas. Lors de la marée noire qui a touché l'île Maurice en 2020, le réseau de coiffeurs Juste proposait même de donner 20 tonnes de cheveux pour aider à filtrer les dégâts. D'ailleurs, de nombreux Mauriciens et Mauriciennes s'étaient coupés les cheveux pour participer à l'effort.
Où en est cette pratique à plus grande échelle ?
Mais en fait, elle est tout à fait connue, cette méthode. En 1978, sachez que la marée noire de Bretagne avait été partiellement traitée aux cheveux, comme ce fut le cas en Alaska en 1989 ou en Indonésie en 2006. Suite à l'accident justement en Alaska, le collectif américain Clean Wave avait récupéré des tonnes de cheveux pour absorber la matière et nettoyer le littoral. Et au-delà du nettoyage des océans, cette matière première serait en train de devenir une nouvelle ressource. On sait que tous les jours, des milliers de coiffeurs coupent nos cheveux et il en résulte des tonnes de déchets qui représentent une matière organique à haute valeur ajoutée qui peut trouver d'étonnants débouchés. L'association de coiffeurs justes, par exemple, fait aujourd'hui la collecte des cheveux dans tous les salons de coiffure adhérents pour de nouveaux usages en les recyclant principalement comme fertilisant grâce à l'azote et au soufre présent dans la kératine ou encore plus surprenant comme isolant à l'instar de la laine de mouton pour l'industrie du bâtiment.
Mais c'est incroyable ce qu'on peut faire avec tous ces cheveux qu'on ramasse nonchalamment chez les coiffeurs. Il faut tout de suite les utiliser. L'association Coiffeurs Justes, vous disiez.
Oui, c'est ça.
Merci Fanny Agostini. Notre planète, tous les matins sur Europe 1, 8h44. Très bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez, vous le savez, ils arrivent. Nicolas Canteloup et Julie.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on retrouve Mathieu Béliard pour l'actualité.
Oui, bonjour ma chère Julie, bonjour à tous. L'actualité ce matin, c'est bien sûr le variant indien qui a été détecté en France. Mais on s'en fout, on s'en fout. On va retourner en terrasse. C'est ça l'info. On va retourner en terrasse, ça y est, oui. La vraie info, c'est le calendrier de déconfinement qui est annoncé ce matin dans la presse régionale. Mais qui a quand même fuité hier dans la presse normale. Ça fait plus sérieux quand même. C'est quand même bizarre comme méthode. Le président donne une interview mercredi pour qu'elle paraisse vendredi, dont les détails fuitent jeudi.
C'est ça. Hein,
on est bien placé pour savoir. On était les premières à révéler l'info. Bravo, Europe 1, Cocorico. Bon, c'était un peu des méthodes de voyous, mais bravo, Europe 1.
Assumé.
Mais bon, voilà, c'était pas plus simple, franchement, de faire une allocution mercredi. Enfin, je dis ça, je dis rien. Je suis pas un communicant non plus. Je suis juste fournisseur d'isolant pour Matignon. Oui, mais mes cheveux. Bon, avec mes cheveux, on va réisoler tout Matignon. C'est pas avec ceux de Castex. Allez, on a l'impression.
Vous êtes jaloux.
C'est pas faux. Allez, on a l'impression qu'ils ont engagé un secrétaire d'État au bordel pour tout rendre compliqué. C'est fascinant. C'est fascinant. Et puis l'autre info, allez, c'est cette info people. Georges Clooney est sur le point d'acheter un domaine en France avec 8 hectares de vigne.
Oui,
de la vigne.
Oui.
Oh là 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 là. Quel bon... Non, pardon, excusez-moi, le Béliard. Excuse-moi, là, Leclerc. Mais si jamais Georges Clooney écoute la radio française pour s'acclimater, j'ai un message pour lui. Hello, George. I am Arnaud Montebourg. You like the vigne. You like the vigne. You like the rosette Provence made in France. But do you like the miel? I'm sure you like to faire péter la souventrière with good tartine de miel. Zioné. Maya the bee.
Maya the bee.
Oui, non, ça ne veut pas dire Maya la bisexuelle. Maya the bee, l'abeille.
Eh oui, Maya the bee.
Eh oui, oui. Do you like the glass, George? My ice cream, the mémère, the momoser. You must goûter the momoser.
Oui, bon, écoutez, merci Arnaud Montebourg, ça ira pour aujourd'hui. Et merci à tous. Allez, on poursuit avec Emmanuel Macron, qui s'exprime donc aujourd'hui dans la presse régionale. Bonjour, monsieur le président. Qu'est-ce que c'est que ça?
Il est rosé.
Oh la Marseillaise.
Oui. Bon, faut que j'écoute jusqu'au bout. Bon, faites pas les cons, Europe 1, je suis au garde à vous. Merci. Merci. Je souhaitais m'exprimer de façon un peu solennelle, donc je vais demander, vous l'avez compris, une Marseillaise, mais bon. J'ai eu une Marseillaise, comment vous dire, de presse régionale. Voilà.
Oh non,
enfin, bref, oui. Bon, bah, écoutez, ce matin, je m'exprime dans le Dauphiné Libéré, les dernières nouvelles d'Alsace, le quotidien de Nogent le Retrou, Saint-Nazaire Magazine, Top Nancy et Mulhouse News.
Mulhouse News.
Oui, c'est difficile à dire, Mulhouse News.
Mais c'est joli. Alors, ça y est, les étapes, on les a, les étapes du déconfinement. Première étape, la levée des restrictions pour les déplacements entre régions.
Oui, ça y est, dès lundi, après, bon, je vois pas bien l'intérêt d'y aller en région, franchement.
Oh, mais ça recommence.
Bah, vous avez vu comment ils y jouent la Marseillaise. Hein. Non, tout est à l'avenant, tout est à l'avenant, enfin. Ensuite, donc, le 19 mai, il y aura la réouverture des terrasses, et puis des musées et des théâtres. Mmh. Même si ça, je sais que vous en foutez un petit peu. Hein. Bah, hein, Cabrol, non, mais je sais. Non, mais s'il a le choix entre aller au PMU du coin ou au musée du fauteuil roulant à Beauvais, je sais où il va aller.
C'est pas vrai, le musée. Bon, non, mais franchement, restons concentrés. Alors, c'est un calendrier très précis, hein, Monsieur le Président.
Alors, tout à fait, Mme Julie, il y a 4 étapes, divisées elles-mêmes en 17 sous-étapes. Attends, j'ai le rapport sous les yeux, ils m'ont pendu. C'est le rapport du Castex. 17 sous-étapes nationales, mais régionalisables en fonction des situations départementales.
Oh là là. Voilà.
Pourra, par exemple, je lis ma fiche, accéder. Ouais. C'est le rapport qu'ils m'ont fait. Oui, on pourra accéder au commerce du trottoir de gauche à partir de 7h30 jusqu'à 19h dans les départements au taux d'incidence supérieur à 400 ou un multiple de 400. Mais sinon, ce sera 20h30, 21h, mais sans nécessité de passe sanitaire, sauf si vous êtes un touriste de plus d'un mètre 75.
Bah, c'est bien prudent de lever autant de restrictions. Franchement, les soignants et les spécialistes trouvent que c'est prématuré. L'Institut Pasteur, notamment, promet une remontée de l'épidémie.
Écoutez, j'ai écouté tous les spécialistes sur le sujet et unanimement, ils ont prouvé, tous, qu'ils étaient moins bons que moi. L'Institut Pasteur, ils avaient aussi promis un vaccin. Hein. Alors, au lieu de faire des prédictions, soit ils se sortent les doigts, soit ils se concentrent, ils contentent de pasteuriser du fromage. Voilà.
Bon, bah écoutez, merci, Monsieur le Président. C'est l'autre préoccupation de ce moment, ces créneaux de vaccination qui restent vides. Que peut-on faire ? On va en parler avec le Premier ministre, Jean Castex.
Oui, bonjour, Mme Julie. Bonjour, Monsieur Béliard. Et merci pour votre promesse de don de cheveux pour isoler Matignon. Une seule coupe suffira. Bonjour à papy et à mamie qui vont bientôt se faire vacciner. Et en effet, pour remédier au problème, nous avons conclu un partenariat avec nos amis de chez Odica.
Avec Odica ? Mais pourquoi ?
Parce que la réponse est là. Comment ?
C'est là, oui, il faut revenir au slogan. Là,
oui, là, c'est là, bien là. Quand vous expliquez et que vous prenez l'auditeur pour un con.
Mais non,
ça fait
ça
toujours plaisir. Si,
certains.
On se sent valorisé quand on est auditeur d'Europe 1 en vous écoutant, Madame Julie. Comment a-t-on fait pour ne pas y penser plutôt à Odica ? Si les personnes âgées ne viennent pas, c'est parce qu'ils sont sourdingues, nous le savons.
Oui.
Ils n'ont pas entendu que c'était ouvert, c'est pour cela qu'ils ne viennent pas. J'ai donc demandé à Odica de vérifier tous les sonotones de ses clients. Hein, papy ? Hein, mamie ? Le monsieur vous dit que les centres de vaccination sont ouverts ! Bon.
Laurent.
Et puis, Laurent a abandonné.
Laurent, il fait son dialogue, lui.
Oui. Alors, ici, oui, mais parce que le centre d'Odica de M. Cabrol est tenu par une personne âgée également qui n'entend rien. Donc, les réglages sont approximatifs. Bon, alors, écoutez, si franchement, c'est pas ça, eh bien, nous interdirons dans 15 jours la vaccination aux plus de 55 ans.
Hein ? Pardon ? L'interdire ?
Oui, parce que les vieux Français, on les connaît. Hein, il suffit de leur interdire quelque chose pour qu'ils aient envie de le faire. Hein, on connaît la combine. Si on leur dit « Fini les conneries, vous avez passé votre tour », dès le lendemain, les centres de vaccination, ça va ressembler à un jour de solde chez Stéradin. Et oui, mais il faut savoir jouer sur la psychologie avec un grand S.
Bien, merci.
Tout est psychologique.
Merci, Monsieur le Premier ministre. Toujours sur le volet du déconfinement, le télétravail va s'assouplir et la restauration en entreprise va reprendre. Bonjour Bruno Le Maire. Monsieur Le Maire. Bruno Le Maire.
Ah, pardon, excusez-moi. J'étais en train de lire le passionnant 2000e numéro de l'opinion de Monsieur Bétou. Alors, si on peut faire un peu de promo, ça coûte pas cher. Allez, on va en avoir besoin. Allez,
bon,
alors. Bonjour, Mme Julie.
Bonjour.
Pardon. Bonjour, Monsieur Béliard. Je le mets de côté, hein, ce 2000e numéro de l'opinion. Alors. Bonjour à vos aimables soufis. Fais bien.
Attendez, oui.
C'est le festival des bonnes nouvelles cette semaine. Vous allez pouvoir très vite remal manger en entreprise.
en rayon des mauvaises nouvelles, justement, vous avez commencé à annoncer cette semaine la fin des aides et du quoi qu'il en coûte.
Oui, oui, on a dit quoi qu'il en coûte, mais on n'a pas dit pour toujours. Hein. Ah, on est la France, on n'est pas le Qatar non plus, on n'est pas les Émirats Arabes Unis, en clair. Je le dis aux entreprises, aux restaurateurs, on va vous enlever les roulettes. Voilà, il va falloir pédaler tout seul. Hein. Vous vous rappelez quand vous étiez petite, Mme Julie, quand vous enlevez les roulettes pour la première fois?
Oui, bah, on est nombreux à être partis dans le décor. Hein.
Voilà, hein, donc vous êtes prévenus, les entreprises. Mettez un casque, hein. Jouez là Jean-Claude Lagnès, le cascadeur, et prenez une trousse à pharmacie, il va y avoir des dégâts.
Les restaurateurs sortent à peine la tête de l'eau, mais on a appris que les terrasses éphémères seraient payantes hein, dès la mi-juillet.
Alors oui, vous n'aurez pas le droit de la remplir à 100% à cause de la distanciation. En revanche, on vous autorise à payer la taxe à 100% sur les terrasses. Mais oui, non, mais je le dis, c'est fini le temps où il pleuvait du pognon. Allez,
merci
pour faire une rime, je replonge dans mon numéro passionnant de l'opinion.
Bah pendant ce temps, on va parler de la réouverture programmée des théâtres et des cinémas, qui ne règle pas totalement le problème des concerts. À ce sujet, on va reparler de ce premier concert test qui a eu lieu en Espagne et qui avait rassemblé 5000 personnes. Et on ne rapporte aucune contamination à la suite de ce concert. En France, une initiative de ce genre est prévue pour le mois de mai. Bonjour Roselyne Bachelot.
Oui. Bonjour Julie, bonjour Mathieu, oui ça va mieux, bah merci, oui. Bonjour Lolo. Écoutez, oui, nous aussi on est en train d'avancer sur les concerts tests. Bon, franchement, 5000 personnes au début, on trouvait que c'était beaucoup. Mmh. On visait plutôt une dizaine.
Ouais, un concert avec une dizaine.
Du coup, on était en pourparlers avec Francis Lalanne. Mais il y avait un problème, son public, c'est des fous furieux, son public, ils vont venir sans masque, sans se laver les mains, même à 10, ils sont capables de déclencher un cluster.
Bon, écoutez, de toute façon, finalement, le groupe qui a été choisi, c'est Indochine. Le concert rassemblera 5000 personnes et le but est de constater s'il y a un risque plus important qu'en situation normale, disons.
Oui, oui, ce sera une grande avancée, tu vois, Julie. Je vous assure qu'au gouvernement, on croise tous les doigts pour que ce concert soit vraiment un échec.
Un succès, vous voulez dire?
Non, 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 il faut que ce soit une catastrophe, un cluster géant. Sinon, ça voudrait dire quoi? Qu'on a tout fermé pour rien depuis un an?
Ah bah oui, oui, oui.
Mais vous imaginez les conséquences, les réactions, si on se rend compte qu'on se contamine pas lors d'un concert? Mais les gens vont nous arracher les yeux. Non, non, je vous le dis, s'il y a moins de 50 morts, on sera pas content.
Oh là là là, mais
il y en aura des morts, il y en aura forcément des morts.
Ah, Patrick Bruel, bonjour, mais comment ça, il y aura des morts?
Mais enfin, Julie, ouvre les yeux, c'est un concert d'Indochine. Et t'as déjà vu le public d'Indochine? C'est des ados gothiques et suicidaires. Évidemment qu'il va y avoir des morts après leur concert. Mais ce sera pas du Covid, ils seront juste tous flingués. Tu parles d'un progrès. Oh putain.
Ah merci Patrick Bruel.
Et leurs parents.
Et leurs parents, c'est le propre d'Indochine. Merci beaucoup Nicolas Canteloup. La revue de presse à retrouver sur Europe1.fr, bien sûr. Merci Nicolas, merci Julie, 8h57. Philippe Vandel est là, Culture Média, c'est la matinée qui continue sur Europe 1. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour, et Culture Média
bravo,
qui continue.
Bon anniversaire.
Mais oui, aujourd'hui c'est la 400e de Culture Média. Non, on peut vivre sans savoir ça, mais c'est la 400e aujourd'hui quand même, et vous avez vu comme le président Macron qui a été très sympathique.
Ah oui.
Puisqu'il a réouvert les théâtres, enfin, il a annoncé qu'ils allaient réouvrir les théâtres, les cinémas,
on rouvre la culture
et les musées
pour
les musées et les musées, pardon. Les musées parce qu'on parlait de gastronomie aussi aujourd'hui. Et je pensais à mon chat qui m'écoute. Notre info média du jour, on va s'intéresser à Napoléon à travers un documentaire unique 200 ans après sa disparition. Pourquoi unique? Car il s'intéresse à sa mort. Napoléon a failli mourir 6 fois dans une tentative de suicide. Ça devrait pas vous faire rire. Je l'ai appris comme ça, on sera avec Mathieu Schwartz.
Il y a prescription quand même.
Le réalisateur, évidemment, le réal de Napoléon, la destinée et la mort, c'est sur Arte. Au sommaire également, le retour de Santidé, vous avez connu ça? Magazine iconique des années 70 ou 80 pour apprendre à faire du macramé ou des poulaillers. Eh bien, le magazine est relancé.
C'est génial,
mais
do it yourself, quoi.
Exactement. C'était ce qui était furieusement, affreusement ringard est devenu furieusement tendance.
Il y a des post-it partout.
Évidemment. Bah, et oui, parce qu'avant de faire une émission, on travaille.
Et oui,
et c'est le principe de la 400e.
C'était que vous gardiez des activités pour le week-end.
Exactement.
Comme les jolis pots sur vos étagères.
Voilà, exactement. Et puis on serait avec la comédienne Gwendoline Hamon qui incarne Cassandre dans la série Cassandre qui revient pour la 5e saison samedi.
Merci Philippe Vandel, Culture Média de 9h à 11h. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. C'est Pierre de Villeneuve qui vous réveille samedi, dimanche. Je reviens lundi 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.